Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Venus d'Orient, nos histoires, nos vérités, le podcast qui donne la parole aux voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Naoula Lamouchi, je suis journaliste pour Radio Orient et j'ai l'honneur d'accueillir pour cet épisode Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris et de Tunis et conseillère près de la Cour pénale internationale. Samia Maktouf, c'est un peu une figure dans le monde de l'avocature. Elle s'est démarquée dans des affaires judiciaires très médiatisées. Elle représente les familles des victimes d'attentats, notamment celui du 13 novembre 2015. Dans cet épisode, elle revient sans filtre sur son parcours vers l'avocature, comment elle a su se faire une place dans un milieu encore très masculin et très élitiste. On a aussi parlé de son rapport à la Tunisie, son pays d'origine, une double culture qu'elle perçoit avant tout comme une richesse. Bienvenue dans Venus d'Orient, nos histoires, nos vérités.
Bonjour maître.
Bonjour.
Merci de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui.
Merci pour votre invitation.
Pourquoi vous êtes devenue avocate ?
L'avocature s'est imposée à moi. Je me suis tout de suite vue jeune avocate. Alors, je vais paraphraser sans le vouloir les propos de Gisèle Halimi, cette célèbre avocate franco-tunisienne qui est partie de la Tunisie, de la ville de Delissa à Carthage. Elle a appris le métier chez elle. Moi, j'ai appris le métier dans ma famille. Je suis fille unique avec 5 garçons. Il fallait que je fasse ma place, il fallait que je trouve ma place et que je m'impose. Et pour s'imposer, il fallait de la force, du courage. Et l'avocature s'est imposée à moi. Je n'ai pas cherché une vocation, c'était une vocation née.
Donc, vous avez quitté la Tunisie à l'âge de 18 ans. Comment vous l'avez vécu ce départ ?
Comme un voyage, comme une nouvelle aventure, comme une nouvelle expérience, en tout cas avec beaucoup de joie. C'était pas une rupture pour moi, c'était un départ, c'était une joie, une fierté de pouvoir m'accomplir et m'enrichir. C'est ainsi que je voyais ce déplacement vers la France.
L'avocature, ça reste un milieu assez élitiste et aussi très masculin. Comment est-ce que vous avez réussi aussi à vous imposer sans se sentir illégitime?
Écoutez, je me suis toujours sentie dans mon élément. Pourquoi? Parce que j'avais les outils. Les outils, je les ai acquis chez moi, avant de partir. Et quand je dis chez moi, dans mon foyer familial, face à 5 garçons. 5 garçons qui voulaient s'emparer du pouvoir. Il fallait que je trouve ma place, que je la fasse, que je l'impose. Je me souviens un jour, je me suis battue avec mon frère, je lui ai cassé le nez, parce qu'il fallait qu'on comprenne que je n'étais pas prête à céder ma place. Et c'est ça les outils dont j'avais besoin et que j'ai utilisés pour trouver ma place. Et bien sûr que c'est pas évident, bien sûr que c'est une bataille au quotidien, non seulement en Tunisie, mais à peine arrivée. Mais vous savez, si vous n'êtes pas prête à ça, vous ne pouvez pas accomplir un chemin, vous ne pouvez même pas avancer. Pour moi, c'était un exercice du quotidien, s'imposer, rester debout, continuer à avancer. L'échec était une force pour moi. C'était cette force-là qui m'amenait à me relever. C'était très, très important de concevoir l'échec comme une force, comme une deuxième chance et pas une dernière.
Et est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, et notamment le fait d'être une femme franco-maghrébine, a rendu votre parcours plus difficile ?
Vous savez, d'abord, moi, j'ai horreur de la victimisation. Je n'ai pas envie de me positionner en tant que femme arabe, franco-maghrébine, victime. Je suis victime d'aucun système. Je me dois de me battre pour rester debout. Maintenant, moi, j'ai des amies franco-françaises ou franco-américaines qui ont dû se battre pour rester debout. Je crois que c'est quelque chose qui est lié à la structure même de la femme, à la compréhension qui est faite par les hommes sur les femmes, à la manière dont les hommes veulent écarter les femmes. Je parlais pour évoquer un domaine qui m'est très familier ou dans lequel je m'étais exercée très très longuement, c'est celui de la radicalisation. La radicalisation est un phénomène qui est utilisé par les hommes plus auprès des femmes qu'auprès des hommes, parce que dans la tête de ce salafiste qui a acquis des réflexes et une culture et une formation salafiste misogyne, c'est auprès de la femme, comme d'abord ils sont tous lâches, hein. Tous les terroristes, les djihadistes sont des hommes lâches, donc ils exercent leur force sur la femme. Je pense que de toute manière, ce n'est pas propre à la femme maghrébine, ce n'est pas propre à la femme musulmane, et j'ai vu plusieurs femmes musulmanes, même celles qui portent le voile, même celles qui sont dans la religion, parce que c'est un choix, être agressées par les autres et par les hommes. Donc, c'est le statut même des femmes, parce qu'on est née femme et parce qu'on doit se battre et on doit rester debout. Autrement, on tombe par nous-mêmes d'abord.
Et vous l'avez dit, hein, vous défendez des familles, des victimes de terrorisme. Pourquoi ça vous tient autant à cœur?
Ce qui est arrivé aux familles des victimes pouvait arriver à n'importe quelle autre personne. Parce que ce qui arrive aux familles des victimes, d'abord c'est terrible, c'est malheureux, c'est douloureux, c'est quelque chose d'insupportable. C'est toujours difficile de perdre un proche, mais perdre un proche, un enfant, une sœur ou un mari dans un contexte terroriste, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un accident de la route, ce n'est pas une altercation, c'est vouloir mettre fin à la vie de quelqu'un pour semer la terreur. Et ça tombe sur cette personne. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. C'est déjà arrivé depuis il y a 10 ans et ça peut arriver aujourd'hui à n'importe qui. Et j'ai envie de dire que dans le terrorisme, il y a cette injustice qui frappe l'être humain parce qu'il est sur le chemin d'un terroriste qui a une volonté de semer la terreur et de détruire tout ce qui lui fait face, tout ce qu'il rencontre sur son chemin.
Vous avez défendu durant votre carrière beaucoup de personnes, je pense notamment à Aziad Takieddine. Est-ce que vous, vous fixez une limite morale ?
Je ne me fixe pas une limite morale parce que je suis avocate, parce que j'ai prêté serment pour servir la cause de mon métier, celui que j'ai choisi, pour lequel j'ai prêté serment. Maintenant, il peut m'arriver de faire valoir une clause de conscience. La clause de conscience, c'est de refuser de défendre une personne parce qu'il ne me sera pas possible de défendre cette personne. Vous savez, défendre, ça vient des tripes. Défendre ou assister quelqu'un, il faut être totalement, non pas acquis à la cause, mais acquis à la défense et à l'accompagnement de la personne. Vous pouvez défendre, comme a fait Dupond-Moretti, le frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, mais ça ne veut pas dire que mon confrère Dupond-Moretti était acquis à la cause. Et ça, ça crée l'amalgame dans l'esprit des gens. Non, c'est la défense de quelqu'un qui va faire face à une machine devant laquelle on peut être écrasé. Cette machine, c'est la machine de la justice. Et pour faire face à la machine de la justice, il faut être accompagné. Pour répondre encore plus dans les détails à votre question, moi, il m'est arrivé de défendre des personnes, de les assister, j'ai envie de dire, parce que c'est la gloire de notre état de droit. Et lorsque dans les différents procès, que ce soit le procès d'Abdelkader Merah dans l'attentat de Toulouse 2012 ou de Salah Abdeslam dans l'attentat du 13 novembre 2015, je peux citer tous les attentats auxquels j'ai eu l'honneur d'assister des victimes. J'expliquais aux victimes que j'assistais que la grandeur du verdict va être à la hauteur de la défense dont va bénéficier l'accusé. Vous savez, vous ne pouvez pas donner des coups à quelqu'un et lui dire, voilà, tu es par terre, tu as perdu, et on va lever la main de l'autre boxeur parce qu'il a gagné, tout simplement parce que l'autre est par terre. Non. La grandeur de notre état de droit, c'est de pouvoir offrir toutes les garanties de défense à quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis des crimes, de lui avoir accordé mettre à sa disposition tous les moyens. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Par exemple, Abdelkader Merah, lorsque il était suspecté d'avoir été le complice de son frère Mohamed Merah, il a fait une demande via son avocat Dupont-Moretti pour obtenir une copie du dossier. Eh bien, le magistrat instructeur a convoqué l'ensemble des avocats, des parties civiles, il a demandé ce qu'on en pensait. Et à l'unanimité, je pense, hein, je ne crois pas me tromper, nous, avocats des parties civiles, avons accepté qu'Abdelkader Merah puisse, dans sa cellule, avoir accès à l'intégralité de son dossier. Vous voyez, c'est ça ce que je défends. Ce qui est cher à mes valeurs, à mes principes, c'est de permettre aux personnes qui sont suspectées d'avoir commis des crimes ou des délits de pouvoir bénéficier de la meilleure de la défense. Parce que la meilleure de la défense est celle qui donnera la signature de la grandeur du verdict qui sera prononcé.
Et tout à l'heure, vous parliez justement des victimes d'attentats et il y avait une espèce de forme d'injustice parce qu'on avait décidé de les viser elles et que ce n'était pas dans l'ordre des choses, finalement, de se faire tuer dans ces circonstances-là. Est-ce que vous, dans votre schéma familial, lorsque vous étiez plus jeune, par exemple, vous avez vu, vous avez subi peut-être des formes d'injustice qui vous ont donné envie par la suite de vouloir vous engager dans ce métier ?
Au quotidien, dans la rue, dans certaines familles qui ne respectaient pas leurs enfants. C'est quelque chose qui m'avait, je pense, le plus bouleversée. C'est la manière dont les enfants étaient traités. C'est les punitions qui étaient infligées aux jeunes, aux enfants sous prétexte que ce sont vos enfants et donc ça vous donne le droit d'exercer une certaine violence sur ces enfants. Les injustices dans les rues où on pouvait, parce que c'est une femme, la déranger parce qu'elle traverse une rue ou parce qu'une personne qui était sans défense pouvait se faire attaquer par un groupe. Vous voyez, je crois que je ne révèle rien en disant que l'injustice existe dans nos rues. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'injustice est visible. L'injustice n'est plus un tabou aujourd'hui. Elle s'exerce ouvertement. On ne se cache plus pour insulter, pour discriminer quelqu'un. Et ça, c'est frappant.
Tout à l'heure, vous parliez de figures, dont une figure qui vous avait marquée, c'était Gisèle Halimi. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
La première figure qui m'a inspirée, qui était à l'origine de ma carrière, de toute ma manière de faire, c'est ma mère, bien sûr. Ma mère, parce que, alors qu'elle n'a jamais été à l'école, c'est une personne qui était ouverte d'esprit, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée sur le chemin de la scolarisation. Lorsque je lui ai demandé de partir à l'étranger, alors que j'ai obtenu en Tunisie le droit d'être à la faculté de droit de Tunis, mais je lui ai expliqué que je voudrais partir en France pour une ouverture d'esprit, pour voir un peu ce qui se passe à l'étranger. J'avais pas besoin de beaucoup de mots pour lui expliquer. Et elle m'a tout de suite suivie, non seulement suivie, mais elle m'a appuyée, elle m'a soutenue. Et c'est une femme qui avait une grande force de caractère. C'est une femme comme beaucoup de nos mères. Elle a élevé seule 6 enfants parce que l'image du père, elle est absente dans notre société, soi-disant patriarcale. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, impressionné et guidé dans mes choix, dans mes manières de voir les choses. La force de caractère de ma mère. Il y a des moments où on n'avait pas de choix. Il fallait faire ça. Et il fallait trouver le moyen pour faire ça, parce que c'était le meilleur pour elle, pour nous. Et bien sûr, quand on est jeune, on ne se rend pas compte, mais après, on réalise qu'elle était dans le vrai et que j'ai bien fait de suivre l'exemple. Mais vous savez, ce qui me frappait à l'époque, c'est cet esprit visionnaire. Pour ma mère, c'est quelqu'un qui n'était pas à l'école, elle n'était pas à la faculté, elle n'a pas rencontré des personnalités du monde littéraire ou du monde, tout simplement. Mais elle était visionnaire. Et c'est ce qui m'emmène à dire que lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on a envie, on peut arriver. Lorsqu'on se dessine un chemin, on peut aller jusqu'au bout et même au-delà. Donc, en fait, ce qui nous dicte, c'est quelque chose de l'intérieur. C'est une voix de l'intérieur qui nous dit « oui, tu peux y aller, oui, tu arriveras et tu dois y arriver. Et tout ça, je l'ai appris par ma mère.
Pour elle, la réussite, elle passait aussi par l'école.
Elle passait par l'école, oui, mais elle ne passait pas que par l'école. Moi, par exemple, très jeune, je n'appartiens pas à une famille riche, c'est une famille modeste. J'avais envie d'apprendre un instrument de musique parce que j'aime beaucoup la musique et je continue à aimer la musique. Elle ne s'est pas opposée. J'avais envie de faire, outre mes études très très jeune, de la compétition en natation. Elle a dit que c'est très bien, il faut le faire. C'était quelque chose qui lui coûtait. Elle m'a dit, si tu veux y aller, il faut arriver au plus haut niveau. Et donc, c'était des entraînements tous les jours dans une piscine où il fait froid. Mais j'ai tenu bon, je ne le regrette pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on a envie d'arriver, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin. Il y a une volonté, tout simplement.
Avec un entourage qui est aussi dans le soutien, forcément, ça aide aussi.
Ça aide, bien sûr. L'entourage qui est dans le soutien, c'est ma mère. Mon père, même s'il était timidement présent dans ma vie, il a toujours été fier de tout ce que j'ai fait, de mes réussites, de mes choix. Des frères, dont un frère aîné qui a donné l'exemple, puisqu'il avait très, très bien réussi. Et vous savez, il y a un proverbe tunisien qui dit, dans une famille nombreuse, s'il faut élever et éduquer quelqu'un, c'est le premier, c'est l'aîné. Et mes parents ont compris, et ma mère surtout a compris ça, et c'est mon frère aîné qui a donné le tempo, c'est lui qui a donné la force, c'est lui qui a tracé le chemin. Et une fois que le chemin est tracé, il faut suivre. Et quand on le suit, il ne faut pas sortir de ce chemin et on a l'impression que ce chemin tracé est fait pour nous. On ne réalise même pas, ça devient une obligation.
C'est quoi votre rapport avec la Tunisie ?
C'est le rapport de mon pays natal, c'est le rapport que j'ai avec un pays qui est ouvert, un carrefour de la Méditerranée. C'est un rapport d'amour, d'affection, c'est un rapport d'appartenance. Parce que on ne peut pas nier son appartenance. Et vous savez, je reçois beaucoup de courriers de jeunes étudiants en droit que j'essaye de recevoir, à qui j'essaye d'offrir des stages, parce qu'ils me font savoir que c'est extrêmement difficile d'avoir des stages. Et si on n'a pas de stage, on n'est pas formé. Si on n'est pas formé, on ne fait pas de bons choix. Et si on ne fait pas de bons choix, on ne peut pas réussir. Il faut faire le bon choix. Et le bon choix, s'exerce avec la pratique. Et très souvent, et moi j'ai un souvenir précis d'une stagiaire que je recevais dans un entretien dont le prénom était à l'évidence d'origine et de consonance arabe, et elle me dit tout de suite, mais je ne parle pas l'arabe. Je lui dis, écoutez, justement, c'est dommage parce que c'est un point en moins et ça aurait été une force. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui ne parlent pas la langue maternelle, parce que leurs parents ne leur ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas vécu dans un foyer. Mais il faut que la démarche personnelle soit d'aller vers ses origines. Moi, j'ai connu des personnes à 50 ans qui se sont mises à apprendre la langue maternelle de leurs parents parce que les parents n'ont pas cru bon de la leur apprendre. Et très souvent, je leur dis, vous savez, aujourd'hui, vous avez un bac, vous avez une licence, vous avez une maîtrise, vous avez des diplômes d'université, 90% ont les mêmes que vous. Qu'est-ce que vous avez, vous, de plus que les autres ? C'est votre culture ? Moi, je parle de ma culture tunisienne. Elle m'a permis de m'ouvrir sur l'Italie, de parler l'italien, m'ouvrir sur le monde occidental, de m'ouvrir sur un sud qui n'est pas lointain. C'est une richesse. Et donc, je leur dis très souvent, choisissez des niches pour percer. Parce que vous êtes 90%, 90%, ayant le même statut, le même CV. Moi, quand je reçois une stagiaire, j'essaie de voir ce qu'elle a de plus. Qu'est-ce qui va me convaincre de la recruter et de m'apporter ce plus ? Ce plus, c'est cette curiosité, c'est ce regard sur le monde, c'est cette volonté d'apprendre, de croquer la vie, de dire voilà, pourquoi il y a eu ça, je veux comprendre, je veux apprendre, je veux savoir. Ça est susceptible de me convaincre de prendre une stagiaire ou un stagiaire. Mais arriver avec un CV de 3 pages de différentes écoles, différentes institutions, différentes formations, ne me convainc pas.
Donc, pour vous, cette double culture, vous la vivez pas comme un tiraillement?
Ah, certainement pas. Je la vis comme une richesse. Je remercie mes parents, je remercie ma patrie, la Tunisie, de m'avoir permis de m'ouvrir sur ces autres continents, sur ces autres cultures. C'est véritablement une richesse, une chance de plus que j'aurais ratée si j'avais pas quitté la Tunisie, parce que on ne quitte jamais sa patrie. On quitte des murs, on quitte des atmosphères, mais on ne quitte jamais, jamais sa patrie.
Avec du recul, aujourd'hui, vous diriez quoi à la Samia petite, qui était encore en Tunisie, qui n'était pas encore avocate, qui rêvait aussi de devenir la personne qu'elle est devenue aujourd'hui?
Bah, écoutez, peut-être je lui dirais que tu as fait un choix, c'est peut-être pas le meilleur, mais t'es allée jusqu'au bout de ton choix. Vous savez, c'est comme dans une, pour revenir au droit et aux étudiants, parce que j'aime beaucoup l'enseignement et j'enseigne, lorsque je pose un cas pratique aux élèves, je leur dis, écoutez, là vous êtes 30, il peut y avoir 30 solutions à la question juridique que je viens de vous poser. Mais ce qui est important, c'est la manière, c'est comment vous allez arriver à cette solution. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même parcours, la même manière, le même schéma, les mêmes articles, mais vous pouvez arriver à une solution à partir du moment où elle est logique, où elle peut se défendre, vous arriverez à quelque chose. Mais nous ne sommes pas obligés tous de prendre le même chemin pour arriver à cette terre de réussite. La terre de réussite nous attend. Il suffit de vouloir trouver le chemin pour y arriver. Et elle nous attendra, et cette terre est une terre promise.
Est-ce que vous êtes fière?
Oui, je suis fière de ce que j'ai accompli jusque-là. Je regrette de n'avoir pas pu faire plus, mais très sincèrement, je ne dispose pas de plus de temps pour en faire plus. Mais si j'avais plus que 24 heures dans la journée, je pense que j'aurais été capable de faire plus dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture. J'ai créé l'association du prix littéraire Gisèle Halimi, donc ça m'a donné l'occasion de m'ouvrir sur le monde littéraire. Mais je suis tellement assoiffée, j'ai tellement envie d'apprendre autre chose, que je ne rêve que de ça. Je rêve de prendre des cours d'histoire, je rêve de voyager, de connaître des terres lointaines. Et je trouve que quand on a envie de tout ça, on s'estime heureux.
Mais on sent que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, que vous êtes passionné par l'avocature. Vous auriez pu faire un métier où il n'y a pas de passion?
On ne fait rien sans passion, rien. Moi, je me souviens de mon père qui était un homme intellectuel. Il nous disait, écoutez, je ne vous imposerai rien. Votre choix professionnel, vous allez le faire vous-même. Moi, je vous donnerai les outils, l'éducation, l'école. Je serai derrière vous pour tout, votre mère aussi. Mais si un jour vous décidez de devenir éboueur, soyez le meilleur de votre rue. Et j'ai jamais oublié ça. C'est à partir du moment où vous choisissez de faire quelque chose, essayez de faire au mieux. Et pour faire au mieux, il faut mettre de la passion. Vous savez, sans passion, la vie n'a pas de goût. Sans passion, vous ne pouvez pas pousser, vous ne pouvez pas grandir, vous restez petit dans tous les sens du mot. Donc la passion, c'est un moteur qui vous fait grandir. C'est un moteur qui vous fait aller vers l'autre. Vous savez, ceux qui sont dans la haine, c'est des gens qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas l'envie d'apprendre, de se développer. C'est ça, les gens haineux. C'est des gens renfermés sur eux-mêmes. Et c'est des gens qui n'ont pas de désir, de passion. Moi, je suis remplie de passion.
Merci beaucoup, Samia Maktoub, d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous.
C'était Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne orientale. Un épisode avec Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris et de Tunis et conseil près de la Cour pénale internationale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.